Aujourd'hui dans À vos trousses, nous vous proposons une nouvelle émission du Club Radio du lycée Jean Vigo. Pour ce nouveau numéro, les élèves se sont intéressés à un sujet complexe, celui des théories du complot. Nicolas Mathuseau et moi-même, Sophia, nous les avons accompagnés pour préparer et présenter ce vaste sujet. Vous retrouverez derrière les micros Élodie et Baptiste avec Arthur à la technique.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au Club Radio pour parler des théories du complot. Alors je me présente, je m'appelle Arthur Cadenemen. Aujourd'hui nous avons Élodie.
Bonjour.
On a aussi Baptiste.
Bonjour à tous.
On a Sophie.
Sophia.
Sophia.
Bonjour.
On a Monsieur Mathuseau.
Bonjour.
Alors je vais rendre le micro à Monsieur Mathuseau pour le reste de l'émission. Et l'émission commence avec Monsieur Mathuseau justement.
Pour commencer, on pourrait dire que donc on a préparé effectivement cette émission sur les théories du complot, comme l'a dit Arthur, et que ça a été compliqué et on s'est bien marré à trouver des arguments et des contre-arguments sur certaines théories du complot, comme celle sur la Terre qui serait plate. Et on est tous et toutes un peu devenus fous et folles à préparer cette émission.
Même si on l'est déjà en fait, finalement.
Justement, on l'est devenu.
Non, les théories du complot, c'est un petit peu le terrier du lapin dans l'Alice au Pays des Merveilles. On commence à creuser et on ne sait pas forcément à quel moment on va s'arrêter. Donc on s'est effectivement restreint surtout aux théories platistes, parce que c'est quand même une des théories les plus connues parmi les théories du complot et sur lesquelles on a quand même le plus d'arguments scientifiques pour dire que bon, ça ne tient pas vraiment la route. Et justement, je vous propose qu'on commence à explorer un petit peu, déjà qu'on commence par ce qu'on a au niveau des connaissances scientifiques, hein, parce que depuis l'Antiquité, la forme de la Terre, c'est quand même une question que à peu près tous les peuples se sont posés. Avant l'Antiquité, dans toutes les zones du monde, on pensait en gros que le ciel était une voûte qui coiffait la Terre, et la Terre, on l'imaginait de différentes formes, rectangulaires, carrées, rondes, souvent plates, parfois avec des versions plus étonnantes, comme la version où on pense que la Terre était plate et ronde et posée sur les dos d'éléphants géants qui servaient de piliers, qui reposent sur une tortue géante qui elle-même flotterait dans l'espace, dans les eaux primordiales. Une idée qui, étonnamment d'ailleurs, est reprise par plusieurs peuples dans le monde, hein, de l'Inde au reste de l'Asie, et en passant même par l'Amérique du Nord, si je ne dis pas de bêtises. Et qui a été reprise par Terry Pratchett dans sa saga des Annales du Disque Monde. Pour ceux qui connaissent, voilà, qui aiment bien la fantasy, c'est pas un clin d'œil qui vient de nulle part. Toujours est-il que quand on observe les mouvements du ciel, on pourrait facilement croire qu'on est immobile au milieu d'une grande sphère céleste qui tournerait autour de nous. Sauf que assez rapidement, quand même, certains peuples, notamment les Grecs, vont se poser la question de savoir si vraiment on est au centre de l'univers et de savoir si la Terre elle-même est de forme sphérique ou pas. Les premiers à avoir suspecté que la Terre n'était pas plate et qu'elle était en fait ronde, c'est notamment Pythagore et ses disciples, hein, qui ont imaginé que la Terre était ronde parce que pour eux c'était la forme la plus parfaite. C'est une idée qui a été reprise, donc là on se situe vers le 6e siècle avant notre ère. Une idée qui a été reprise un siècle plus tard par Platon, qui en fait mention dans un de ses derniers ouvrages, le Timée, en -360. Où il écrit que le dieu, donc le dieu démiurge, hein, celui qui aurait créé l'univers, a tourné le monde en forme de sphère dont les extrémités sont partout à égale distance du centre, cette forme circulaire étant la plus parfaite de toutes et la plus semblable à elle-même. Voilà. Peu de temps après, Aristote affirme que la Terre est ronde et donne l'argument le plus convaincant, l'ombre circulaire de la Terre sur la Lune pendant les éclipses de Lune. Le cosmos lui-même y est pensé comme une sphère, la seule forme géométrique susceptible de représenter la perfection du ciel. Et c'est en modélisant un monde géocentrique, donc la Terre au centre et tout qui gravite autour, que les mathématiciens grecs vont poser les bases de la physique et de l'astronomie.
Quand on a préparé cette émission, tu nous as rapidement parlé d'Ératosthène, qui a donc été le premier, on y arrive, à calculer même la circonférence de la Terre.
Tout à fait, c'est lui qui a réussi vraiment à démontrer que la Terre était ronde, sans ambiguïté, grâce à un problème mathématique qui est venu à sa connaissance un peu par hasard. Eratosthène n'était pas n'importe qui, il était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et vers moins de 230, il apprend qu'à Sienne, qui aujourd'hui s'appelle Assouan, donc à peu près 1000 km plus au sud qu'Alexandrie, il apprend qu'il y a un puits et qu'au solstice d'été, le soleil se reflète complètement au fond du puits. Donc il est parfaitement à la verticale de Sienne à ce moment-là. Mais pas à Alexandrie, où à la même date, un obélisque, hein, qui est lui aussi parfaitement vertical, a une ombre qui permet de calculer un angle de 7,2 degrés. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ça va être un peu compliqué d'expliquer de la géométrie à l'oral, mais vous pouvez taper facilement Ératosthène dans un moteur de recherche et vous tomberez assez facilement sur une figure. En tout cas, si vous voulez, les rayons du soleil étant le soleil étant très loin, on considère que les rayons du soleil dans tous les endroits du monde sont à peu près parallèles les uns par rapport aux autres. Et donc en fait, cet angle de 7,2 degrés, il se trouve que ça serait le même que l'angle entre Alexandrie et Assouan. Voilà. Mmh. Du coup, il manque pas grand-chose pour calculer le rayon de la Terre ou sa circonférence. Il manque juste d'avoir la distance entre Assouan et Alexandrie. Et alors, on ne sait pas exactement comment ils s'y sont pris pour mesurer cette distance. Est-ce qu'ils ont exhumé des archives qui dataient d'Alexandre le Grand? Est-ce qu'ils ont employé des arpenteurs officiels, des arpenteurs royaux de Ptolémée III? En tout cas, ils sont arrivés à calculer qu'il y avait à peu près une distance de 5000 stades égyptiens, dont on pense que la valeur valait à peu près 157 mètres. Et au final, quand on calcule, ça donne une distance de 790 km, ce qui fait une marge d'erreur de 2,5 km. Alors, il faudrait nuancer un petit peu ce calcul parce que la valeur du stade égyptien, ça a été reconstitué a posteriori et essentiellement sur la base de ce calcul-là. Donc il y a un petit côté circulaire qui expliquerait la précision. Voilà, mais en tout cas, il a été le premier à calculer quand même de façon très précise la circonférence de la Terre, puisqu'on arrive donc à une valeur à peu près de 39 375 km, alors qu'en réalité, c'est de 40 000. Voilà. Donc on est quand même sur une précision, une erreur de seulement 1,7%. On est en moins de 230 et on a enfin et la preuve que la Terre est ronde et une idée de sa taille. Et c'est quand même pas rien. Voilà. Et après, tout ça sera formalisé par Ptolémée avec un modèle qui finalement va tenir la route pendant 1500 ans. Donc on est en moins de 230 et non seulement on a la preuve que la Terre est ronde, mais en plus on a une idée précise de sa taille. Ptolémée va formaliser un siècle plus tard ce modèle et ce modèle va tenir finalement à peu près 1500 ans jusqu'à ce qu'on remette en cause le fait que la Terre soit au centre de l'univers. Toujours est-il que cette connaissance de la Terre ronde va passer pas loin de disparaître au moment de l'effondrement de l'Empire romain, vers le 5e siècle. Ce qui va sauver cette connaissance, c'est le fait que les savants arabes et persans vont s'emparer de ce savoir-là, qui est nécessaire notamment pour l'observation des règles de l'islam. Et cette connaissance va se diffuser grâce aux travaux d'Al-Biruni, Al-Hazen et Al-Soufi. Et à partir du 11e siècle, ces connaissances gréco-arabes vont revenir depuis l'Espagne musulmane jusqu'à l'Occident chrétien, qui va s'en réemparer, redécouvrir les modèles d'Aristote et de Ptolémée et les adapter aux conceptions chrétiennes. Voilà, le système géocentrique devient le modèle astronomique et théologique de l'Église qui ne remet pas en cause la sphéricité de la Terre, contrairement à ce qu'on croit à l'heure actuelle communément. En réalité, l'Église n'a jamais contesté la rotondité de la Terre.
Exactement, et tu m'offres une parfaite transition parce que donc on s'est aussi interrogé, mais d'où vient cette idée que la Terre est plate et surtout pourquoi on croit qu'au Moyen-Âge les gens pensaient que la Terre était plate? Eh bien, c'est une croyance qui s'est développée, c'est un mythe en fait, qui s'est développé surtout au cours du 19e et 20e siècle. Et j'ai trouvé un article du National Geographic à ce propos qui disait que par exemple dans les manuels d'histoire, encore jusqu'aux années 20 de 1900, on pouvait lire, je cite, « Du temps de Colomb, les gens pensaient que la Terre était plate. Ils croyaient que l'Atlantique était rempli de monstres assez grands pour dévorer leurs navires et se terminait par d'effrayantes chutes d'eau. » Colomb dut combattre ses croyances absurdes pour convaincre ses marins de le suivre. Lui était sûr que la Terre était ronde. Donc voilà, c'était un moyen d'inculquer l'idée que le Moyen-Âge fut une époque de retard culturel, de superstition, qui n'a pris fin qu'avec l'arrivée des héros modernes. Et cette période du 19e, 20e siècle, c'était aussi un contexte, il ne faut pas l'oublier, de romanticisation du passé, là où on a commencé à créer un roman national en France, par exemple, mais aussi ailleurs. C'était aussi les premiers pas des États-nations en Europe. Et donc ce mythe des gens qui pensaient que la Terre était plate au Moyen-Âge, devient une preuve en plus de l'obscurantisme religieux du Moyen-Âge qui se serait brisé avec le siècle des Lumières et ensuite. Et quant à Christophe Colomb, le premier à faire circuler cette idée selon laquelle il a dû se battre contre l'Église pour convaincre de l'utilité de son voyage, c'est Washington Irving qui publie une biographie de Colomb éditée en 1828. Et dans cette biographie, Washington Irving imagine quelque chose qui ne s'est jamais passé, c'est-à-dire qu'il écrit que les opposants à son voyage disaient, je cite à nouveau, qu'il était dit dans les psaumes que les cieux sont étendus comme une peau, c'est-à-dire, suivant les commentateurs, comme le rideau ou la couverture d'une tente. Et que saint Paul, dans son épître aux Hébreux, comparait les cieux à un tabernacle ou tente étendue sur toute la terre, d'où ils inféraient qu'elle devait être plate. De sorte que Colomb, qui était un homme plein de religion, se vit en danger d'être convaincu non seulement d'erreur, mais d'hétérodoxie. Fin de citation. En réalité, ce débat ne s'est jamais produit. Les membres du conseil qui a approuvé le voyage de Colomb sont conscients que la Terre est ronde. Comme tu l'as dit, l'Église ne remet pas en cause la sphéricité de la Terre. Ils connaissaient même à peu près ses dimensions, comme on l'a vu. Mais la seule chose qu'ils signalent à Colomb, c'est que l'Asie, qui était l'objectif de Colomb au début, est trop lointaine pour être atteinte d'une traite, et à aucun moment il ne motive leur opposition par l'autorité de la Bible. Cependant, l'idée que la Terre est plate continue de se transmettre au cours du XXe siècle par l'ouvrage « Zététique Astronomie » de 1865, édité par Samuel Rowbotham. La Flat Earth Society est fondée en 1956 en Angleterre, donc là on fait un saut en avant dans l'histoire pour montrer comment cette théorie, cette idée a continué de se répandre même dans l'histoire, jusqu'à nos jours.
On peut peut-être juste faire un petit crochet et expliquer le mot zététique, parce que c'est un mot, quand on parle des théories du complot, qui revient assez souvent. C'est un mot assez... Alors, c'est un mot ancien, hein, qui vient du grec, qui désigne les personnes qui doutent et qui remettent en question les connaissances, ou plutôt les croyances, souvent d'ailleurs, pour faire la vérité. Alors, à l'heure actuelle, zététique, c'est un courant moderne qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la zététique des Grecs anciens. Mais voilà, l'idée, c'est de prendre les affirmations extraordinaires, hein, l'existence des fantômes, l'existence des ovnis, etc. Et de prouver que ça peut s'expliquer, enfin d'essayer d'explorer les arguments les plus solides et de voir quelles sont les explications les plus logiques. Maintenant, le terme de zététique, c'est aussi un terme dont se sont emparés les complotistes. Donc c'est pas étonnant de trouver le terme zététique sur un ouvrage qui a diffusé peut-être des fausses informations, puisque au final les complotistes s'estiment souvent des rétablisseurs de vérité, des explorateurs de la connaissance, même s'ils n'emploient pas forcément des connaissances très modernes ou très fiables.
Ouais. Exactement, merci. Et ça me permet de rappeler que l'objectif de ces théories du complot est notamment de celle selon laquelle la Terre est plate, c'est de décrédibiliser la recherche scientifique et de montrer que tous ces programmes de recherche sous-traitent de l'argent aux contribuables, donc à nous, aux citoyennes et citoyens, et qu'on serait toutes et tous victimes d'une manipulation par les autorités pour financer justement ces programmes-là. Ce n'est pas inhabituel dans les théories du complot de voir des concepts comme le sur-État ou les...
L'État profond, ouais, l'idée qu'il y aurait un gouvernement caché.
Et qu'on nous ment constamment sur tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit autour de nous. En tout cas, pour revenir à nos jours, cette théorie, malheureusement, elle est encore répandue. D'après l'enquête Polès de 2021, 10% des Américains adhèrent à cette thèse. Et selon une étude menée en France en 2019, 9% des Français croient je cite, possible que la Terre soit plate. Et en 2023, il y a eu une nouvelle enquête réalisée par le même institut, donc l'IFOP, auprès des jeunes des 11-24 ans, qui montrait qu'un jeune sur 6 pense que la Terre est plate. Et un sur 4, d'ailleurs, doute de la théorie de l'évolution. Donc c'est quand même assez inquiétant. Ça montre la force et la capillarité de diffusion des fake news et des faux arguments. Et justement, ça me permet de te passer la parole, Élodie, puisque tu as fait une recherche sur les arguments les plus communs et courants des platistes, qui voudraient montrer par ces arguments-là pseudo-scientifiques que la Terre est plate, alors qu'on peut toujours trouver des contre-arguments qui sont peut-être plus complexes d'un point de vue scientifique, mais on a essayé de les... Enfin, tu as essayé de les résumer. Est-ce que tu veux nous les présenter ?
Les premiers arguments, c'est que l'horizon reste toujours plat. Alors, il reste toujours plat parce que la Terre, comme elle est gigantesque,
on pourrait pas voir la courbe, c'est ça?
Après, en fait, on est juste trop près de la surface. On est à 2 mètres, on est trop petit par rapport à la taille de la Terre. Dès qu'on monte en altitude, on peut davantage voir la courbure.
Par contre, si on monte à 30 km de haut, on peut voir la fin de la courbure.
Ok, donc ça c'était le premier argument, et on peut le démonter comme ça. Et ensuite ?
Après, le deuxième, c'est que l'eau sur les océans est toujours plat. C'est toujours le même niveau, on voit toujours plat. Mmh. Et ça épouse parfaitement la Terre. Genre, l'eau ne va pas en dehors, il reste accroché à la Terre. Et en fait, si l'eau reste... contre la Terre, c'est grâce à la gravité. Après, le troisième argument, c'est que les routes aériennes, elles sont étranges, elles sont pas à plat quand on les met sur un planisphère, ce qui est logique vu que c'est fait sur la Terre quand elle est sur une sphère. Les avions ne volent pas tout droit. Afin de ne pas quitter l'atmosphère, les routes aériennes se basent sur les flux d'air. Un avion suit une trajectoire courbée pour s'adapter à la forme de la Terre et pour assurer un trajet plus rapide. Le but est avant tout d'économiser du temps, mais aussi du carburant. D'autre part, l'espace aérien est de plus en plus rempli. Les routes aériennes doivent être contrôlées, sécurisées et organisées pour éviter que deux avions entrent en collision. Les pilotes ne peuvent pas voler où ils souhaitent et comme bon leur semble. Les itinéraires sont préparés selon les règles spécifiques. Toujours dans l'optique d'économiser du temps de vol et du carburant, les trajets peuvent donc aussi prendre des itinéraires courbés dans le but de gérer un trafic aérien qui devient de plus en plus dense.
Eh bien, merci Elodie. La théorie selon laquelle la Terre serait plate n'est pas la seule théorie du complot qui existe. Malheureusement, il y en a beaucoup qui circulent. Et Baptiste, tu nous as fait une recherche sur une théorie du complot assez récente que tu as trouvée.
Oui, assez récente. Alors, ça remonte juste à 2024, au présidentiel de 2024 aux États-Unis, sur l'affaire de la tentative d'assassinat envers Donald Trump. À ce qui paraît, ça serait Joe Biden qui serait accusé d'avoir orchestré l'assassinat de Trump. Il voudrait s'en prendre à l'adversaire, en mode lui mettre des bâtons dans les roues. Trump même, il accuse aussi, il dit que c'est sa faute. Plusieurs théories disent que c'est des erreurs de sécurité, un intérêt politique supposé. Même sur les réseaux, beaucoup parlent de cette tentative d'assassinat qui pourrait viser Joe Biden. Il n'y a pas de réelle preuve comme quoi ça pourrait être Joe Biden. Mais ça pourrait être aussi par rapport au climat politique, aux services secrets. Il aurait pu y avoir une manipulation mentale du tireur. Joe Biden est une grande personnalité, donc il aurait pu manipuler ou mettre en œuvre ça. Après, ça aurait pu rendre plus populaire Trump, donc c'est le cas. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été réélu. Une réaction trop lente à l'accès du tireur. Donc voilà, peut-être que ça serait pour déstabiliser les États-Unis. Donc peut-être que Joe Biden voulait déstabiliser les États-Unis. Et ça pourrait être aussi le gouvernement qui serait vers tout ça.
Donc en fait, il y a deux choses différentes. Il y a à la fois certaines personnes qui croient que c'est Joe Biden qui en est à l'origine et d'autres qui pensent qu'au final, ça a été orchestré par Donald Trump lui-même pour gagner en visibilité.
Oui, voilà.
Oui, il y a des arguments plus d'ailleurs dans ce sens, sans forcément dire que c'est la vérité, hein, mais il y a effectivement des petits détails qui laissent à penser qu'il y a quand même une part de mise en scène. Alors là aussi, c'est pas un argument très fort, hein, parce que la mise en scène en politique, même quand l'événement n'a pas été voulu, c'est pas rare de sauter sur l'occasion au pied levé et d'en profiter. Voilà, il y avait des photographes qui étaient prêts, mais ils étaient là de toute façon. Il y a des choses qui semblent pas très spontanées, très naturelles.
Oui, voilà.
Mais bon, de là à affirmer que c'était voulu, c'est pas évident. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'effectivement, ça lui a bénéficié et qu'il y a de bonnes chances que ça ait galvanisé ses troupes et augmenté la mobilisation de ses partisans et que ça ait joué un rôle dans sa réélection. Ça,
oui.
C'est vrai.
Oui, voilà.
Et que ça lui a permis d'avoir une occasion de plus pour, on va dire, jeter du poison, sur son adversaire politique, Joe Biden.
Oui.
En tout cas, ça nous permet de dire aussi, Baptiste, que les théories du complot sont souvent un amalgame d'informations vraies et fausses. Et c'est pour ça que c'est compliqué de les débunker. C'est parce qu'il faut vraiment démêler tous les arguments souvent n'ont rien de scientifique, même si on pourrait facilement y croire, parce qu'effectivement, pour revenir au mythe que la Terre est plate, quand on regarde l'horizon, oui, on pourrait penser, c'est facile de penser qu'elle est plate, mais en fait, la science, souvent, elle est plus compliquée qu'une simple observation. Et si la science se contredit, ça, pas forcément sur la question de la Terre plate, mais sur d'autres arguments, c'est pas parce qu'elle se contredit, justement, c'est juste qu'on trouve plus de preuves qui ajoutent de la connaissance à ce qu'on avait avant.
Oui, débunker, effectivement, trier le vrai du faux dans une théorie complotiste, ça peut s'avérer extrêmement compliqué. Moi, je vois des théories complotistes anti-vaccins, et j'ai beau être biologiste, de temps en temps, ça m'oblige à ressortir les livres, vérifier les études. En fait, les théories du complot vont très loin, et c'est justement un phénomène bien décrit, hein, pour les personnes qui luttent contre les fausses informations scientifique ou politique. C'est facile, en fait, de balancer une idée complotiste comme ça. Démontrer qu'elle est fausse, par contre, ça demande infiniment plus d'efforts, de recherche, de travail. Là, on vient de le voir, en fait. Hein. On peut dire la Terre est plate. Pour démontrer qu'elle ne l'est pas, il faut passer une heure à discuter et à explorer les arguments.
Eh bien, le sujet est vaste, mais il y a plein de ressources, plein de podcasts si vous voulez aller plus loin, et même si vous voulez avoir plus d'arguments pour faire face à des plastistes autour de vous pour vous défendre intellectuellement. On mettra quelques liens dans la description de cette émission. Et puis, merci Élodie. Merci Baptiste.
De rien, de rien.
Merci Arthur pour la technique.
De rien.
Et merci Nicolas.
Avec plaisir.
Et puis merci aussi à Gaïa qui nous a lancé l'idée de cette émission, même si elle n'a pas pu être là aujourd'hui pour enregistrer avec nous.
C'est vrai, on pense à elle.
Oui, voilà, c'est elle qui a donné l'idée un petit peu.
Eh bien, pour moi, c'était la dernière intervention. Peut-être que vous allez continuer le Club Radio, j'espère.
L'année prochaine, oui. Après, on ne sait pas trop. Ça dépend si il y a tout le monde.
Élodie, tu vas prendre les rênes.
Oui. Élodie, présidente.
C'était la dernière émission du Club Radio du lycée Jean Vigo de Millau pour l'année 2025-2026. Merci à toutes et tous les élèves participants, Élodie, Baptiste, Arthur, Isaac, Gaïa, Estelle et Enora pour leur participation. Merci à Clara pour le montage et à Alice Jourdain, Marie-Christine Buffet et Nicolas Mathuseau pour la mise en place et la coordination du Club Radio au lycée Jean Vigo. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur la page À vos trousses de notre site radiolarzac.org. Au revoir.
Au revoir.
Ciao, c'était le Club Radio du lycée Jean Vigo.